Les maîtres ont décidé que le temps ne serait ouvert qu'à ceux qui auraient des gros bras d'Hercule. Suer veut dire que je dois extirper hors de ma matière physique, mais aussi de toute ma matière environnante, c'est-à-dire ma vie, les circonstances de ma vie, les émotions de ma vie. Je dois extirper de toute cette matière les sucs délicats, purifiés, pour en aller nourrir mon âme. Étant nourrie en recevant donc son pain quotidien, elle va dilater sa lumière, sa conscience, sa puissance. Et ainsi, celui qui est en moi depuis toujours et qui est le Christ roi, cet enfant-là va naître parce qu'il est nourri. Donc, lorsque vous voulez lire, que ce soit les livres sacrés ou les informations modernes qui vous sont divulguées aujourd'hui, il faut apprendre à sortir un peu de vos considérations personnelles. L'homme est tellement égocentrique que dès qu'on lui dit « Eh bien, tu gagneras le pain à la sueur de ton front », il va penser tout de suite qu'il s'agit de sa miche de pain du midi et qu'il va s'agir de ses efforts de travail. Et il se dit « Eh bien, les dés étaient pipés depuis le début. » Il ne s'agit pas de cela du tout. Et pour que tu puisses y voir clair dans tout ce qui t'est donné, lis toujours les informations au niveau de l'âme, mais cela ne suffit pas. Pour pouvoir savoir ce que l'âme doit y lire, tu dois voir les éléments comme des symboles. Et c'est comme cela qu'avec des mots très simples, avec des images enfantines, les initiés ont réussi à voiler les plus grandes vérités. Car qui peut penser que le pain est la nourriture de l'âme lorsque l'on s'avance au début dans le chemin? Le mental n'est pas habitué à systématiquement symboliser. Or, si vous voulez avancer sur le chemin et avant tout ouvrir les voies du mental supérieur, de l'intuition, de la connexion avec un maître, ou avec un guide, ou avec Shambhala, ou tout simplement avec le cosmos, ou avec votre propre âme, peu importe. Dès que vous voulez démarrer une connexion avec ce qui est en haut et qui est subtil, il faut que votre mental supérieur soit suffisamment ouvert pour dialoguer avec les symboles. Pourquoi ? Tout simplement parce que la langue qui est parlée par les êtres d'en haut et par votre propre âme, ce n'est pas une langue de mots, c'est une suite de projections de symboles. Lorsque donc une âme veut dire à sa personnalité, écoute, maintenant tu dois te mettre au travail spirituel, tu dois commencer à t'intéresser à ce qui est essentiel et te détourner de ce qui est vraiment trop profane. L'âme ne va pas dire les choses de cette façon-là. La personnalité qui est au bout d'un certain temps, qu'elle reçoit cette inspiration, elle va pouvoir le traduire de cette manière. Mais si on prend le message au début, on s'aperçoit que l'âme n'a jamais prononcé un seul mot. Elle crée tout simplement un appétit pour la nourriture essentielle. Donc il est normal que lorsqu'un individu qui vit tout au niveau de l'âme, et parfois même plus, il est donc tout à fait normal que son mental s'exprime par ses symboles. Et que lorsqu'il s'agit de nourriture spirituelle, il emploie tout simplement le mot pain quotidien. Donc, vous ne pouvez pas attendre systématiquement que la vérité descende jusque sur le plan physique des hommes, jusque sur le maigre plan psychologique, le maigre plan mental concret. La vérité cherchera toujours à descendre le plus bas possible, c'est certain, il y a des âges pour cela. Où la vérité passe comme un filet qui est lancé dans l'océan et le filet essaye d'aller racler le fond. Mais il faut encore que les éléments qui reposent sur le fond de l'océan soient d'une dimension suffisante pour être emportés par les mailles du filet. Si les éléments ne sont que des tout petits cailloux, ces éléments vont passer à travers les mailles du filet et être laissés sur le sol. Le filet va remonter et il n'y aura pas les cailloux à l'intérieur. Et c'est comme cela que chaque fois que vient soit un grand initié, soit un grand instructeur, soit un messie, comme vous dites aussi. Il s'agit d'envoyer un filet. Et les hommes, à ce moment-là, ont très peur parce qu'ils disent, ils le savent, ils se le répètent entre eux. Ils disent, il n'y aura qu'un certain nombre de choisis. C'est certain. Pas tout le monde sera concerné par ce qui est dit, par la lumière. Pas tout le monde sera sauvé, comme ils disent encore. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être sauvé ? Concrètement, profondément, qu'est-ce que cela veut dire ? Être sauvé. Réfléchissez un peu. Essayez de trouver la réponse avant que je ne la dise. Faites fonctionner le cœur. Être sauvé. Si on reprend l'image du filet que je viens de décrire, filet qui est composé par des mailles, elles-mêmes composées d'une certaine mesure. Lorsque, à certaines heures cosmiques, ce filet est lancé dans l'océan de la vie matérielle, les éléments qui sont trop petits ne peuvent pas être retenus par les mailles du filet. Ils peuvent être raclés sur le fond de l'océan, être déplacés de l'endroit où ils se trouvaient. Et ainsi, ils sont comme déboussolés, ils ne savent plus où donner de la tête. Une énergie est passée qui les a complètement retournés, qui a décalé le corps éthérique, le corps astral. Ils ne savent plus où est leur maison, leur vraie maison, parce qu'il n'y a plus de Dieu, plus d'église. On ne voit plus un prêtre, et plus les prêtres n'inspirent plus la confiance. Je me retourne et puis tiens, il y a des bouddhistes partout, mais les bouddhistes, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Alors je suis perdue. Tout simplement parce que le filet est passé, l'énergie est arrivée et m'a simplement tournée. Et je n'ai plus mon paysage quotidien. Et en plus, à cette douleur s'ajoute la douleur de voir le filet s'éloigner et emporter mes frères. Qui eux m'avaient prévenu de tout cela, qui me disaient « prépare-toi », qui me disaient « médite, change ». Enlève les archaïsmes, évacue tous les dogmes, fais des sourires à tes enfants, aime le monde, pense au maître. Et je les vois qui s'élèvent, être extraits de l'océan de vie pour aborder la vie au grand air, là où planent les aigles de la connaissance et de la sagesse. Et moi je reste dans le fond, et je reste dans le fond très malheureux, parce qu'en plus, j'ai été déplacée, disloquée. Alors on pourrait croire que le petit caillou qui est resté en bas, que celui-là ne fait pas partie des âmes sauvées. Il ne faut pas voir tellement les choses sur ce plan-là. Il ne faut pas imaginer qu'il y a d'un côté les élus et de l'autre côté ceux qui sont irrécupérables à travers les siècles. Il y a avant toute chose, des heures cosmiques, comme il y a des heures pour les trains qui passent dans les stations. Et il y a des individus qui sont en retard. Certains sont à l'heure et prennent le premier train. Tout va bien apparemment. Et puis d'autres sont en retard. Non seulement ils n'arrivent pas à prendre le deuxième train, mais quelquefois ils ne sont même pas prêts pour le dernier train. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, ils restent sur la station. Et ils attendent le prochain train. Alors cela veut dire quoi concrètement et ésotériquement ? Rester comme cela sur le quai, cela veut dire tout simplement que on attend la prochaine vague de manifestation. Une fois que le corps physique s'est dégagé, lorsque l'âme donc est partie, lorsque l'individu est mort, il va lui falloir attendre la prochaine vague de manifestations. Et cela équivaut à rester sur les quais de la gare, en attendant le prochain train. Lorsque viendra l'autre manifestation, qui correspond un petit peu mieux au style d'évolution de la personne qui a dû rester sur le quai, la personne aura toutes les chances de pouvoir attraper le premier train. Elle n'aura même pas besoin de se demander si elle doit faire des efforts pour être à l'heure cette fois au dernier train. Elle aura de toute manière le premier train. Donc, lorsque l'on parle de gens qui sont sauvés, de gens qui ne le sont pas, il ne faut pas croire qu'il y a une sorte de perte de l'individu. Il y a tout simplement attente de l'autre côté de la vie, dans la non-manifestation. Et pendant ce temps-là, les âges passent sur la Terre, c'est certain. Les âges passent. L'évolution qui a été amorcée va jusqu'à son terme. Puis quelque part, à un moment donné, quelque chose semble être en démarrage. Le fait que cela démarre permette à des âmes, soit anciennes mais qui n'avaient pas réussi le premier cycle de s'incarner, soit à des âmes jeunes véritablement de trouver aussi incarnation. Et c'est comme cela que petit à petit, quelque chose de nouveau semble avoir lieu. Donc il faut absolument évacuer de l'esprit ces histoires et cette peur d'être sauvé ou de n'être pas sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé maintenant, eh bien vous le serez la prochaine fois. Et qu'est-ce que cela veut dire être sauvé? Cela veut dire tout simplement avoir le calibre qu'il faut pour être recueilli par le filet. Et si vous n'êtes pas recueilli par le filet qui vient, vous serez recueilli par l'autre filet. Ce qui ne veut pas dire que vous devez vous asseoir, vous tourner les pouces et que de toute façon, il y aura un jour un filet qui vous ramassera. Il faut apprendre aussi à faire des efforts car il n'est pas bon de rester trop longtemps sur le fond de l'océan. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le domaine des illusions, c'est le domaine de la matière aussi. Et que tant que votre conscience va créer des identifications avec la matière, automatiquement vous allez générer des incarnations et des incarnations de souffrance. Donc, s'il est nécessaire de faire des efforts pour pouvoir être contenu par le filet, ce n'est pas tant parce qu'il est urgent de passer de l'autre côté, ce n'est pas tant non plus parce que si vous n'êtes pas sauvé, vous serez parmi les déchus. Il est important de pouvoir être ramassé par le filet le plus tôt possible parce que tout simplement vous arrêterez aussi le plus tôt possible vos souffrances. Mais pour celui qui n'est pas dérangé par des siècles de souffrance, il peut rester même éternellement sur le sol de l'océan. Ce n'est pas nous qui allons l'empêcher de vivre cela. Mais il se trouve que la conscience n'aime pas être prisonnière de l'identification, prisonnière du mirage, prisonnière de l'illusion. La conscience n'aime pas cela du tout car ce n'est pas sa nature. Elle n'est pas venue pour être prisonnière. Elle est venue pour extraire les sucs de la matière afin d'en faire une sorte de carburant pour déclencher sa puissance intérieure. Donc, lorsqu'elle se trouve prisonnière, elle gesticule comme un enfant qui est enfermé dans un sac. Et parfois, elle va jusqu'à trouer le sac. Et c'est là que l'individu éprouve les pires souffrances. Car il a vu son âme, il sent son âme, et il est comme trop embarrassé par cette âme qui ne lui dit pas ce qui doit être fait. Donc, il faut savoir que s'il y a urgence, ce n'est pas de la part du pêcheur qui lance le filet sur l'océan de la vie. Ce n'est pas non plus une urgence cosmique. C'est un impératif que vous lance votre propre âme et qui vous dit « Écoute, maintenant, ça suffit. Tu es la personnalité et j'ai besoin de toi. Mais je ne veux pas du tout que tu me gardes en prison dans ce jeu de lumière, de reflets de lumière et dans ce jeu de mirage. Il faut absolument que tu sois mon véhicule et non plus ma prison. C'est votre propre âme qui vous lance l'impératif, qui crée les souffrances pour que vous ressentiez l'impératif, pour que vous soyez montre en main en train de vous dire « Mais dans quelque temps, le Christ va passer, il faut que je sois prêt. » Ne créez pas des peurs cosmiques. Le Christ est toujours là. Il n'y a pas un moment où il n'est pas là. Il n'y aura aucun moment où il ne sera plus là. Donc, l'heure de la résurrection est pour tout le monde à toute heure, puisque Christ est toujours là. Simplement, cette impression d'urgence que vous ressentez, sachez que c'est l'impératif de votre âme qui dit « cela suffit maintenant ». Je vais purger cette personnalité, je vais la démanger, je vais lui brûler les pieds par-ci, lui tirer les cheveux par-là, lui tordre un peu l'estomac, lui faire peur même. Et quand la personnalité reçoit la masse de ces informations, elle le dit « mon Dieu, ce n'est pas possible ». Il doit forcément y avoir un impératif cosmique. Et alors l'individu se met à créer et à vivre une peur cosmique, comme s'il y avait dans le cosmos un impératif. Si bien que l'individu qui ne se sent pas suffisamment prêt croit qu'il sera détruit. Ou encore qu'il ne rencontrera plus jamais l'occasion de développer une vie éternelle. Tranquillisez-vous et ne créez pas de peur cosmique. Mais que cette tranquillité ne soit pas du flegme ou de la paresse. Que cette tranquillité, au contraire, soit l'occasion de faire tous les efforts nécessaires pour que vous vous développiez et que vous vous prépariez dans la joie, au lieu de vous préparer dans la crainte et la torture intellectuelle. Tranquillisez-vous, mais pour que ce soit en même temps une façon de doubler, voire quintupler, votre potentiel d'action, votre capacité d'évolution. Car si moi, je vais vers une vie que je sais éternelle, vers un Christ que je sais sans cesse présent qui pourra me recevoir à toute heure, je suis calme et je fais toutes choses avec exactitude et efficacité. Tandis que si moi, je suis le petit homme, qui sait qui a des trains à prendre, qui sait aussi que ces trains passent à des heures très précises, et qui sait aussi que si je n'arrive pas à prendre le train qu'il faut, je serai perdue pour l'éternité, alors je panique. Je panique et je renverse mon café. Je fais mal les lacets à mes chaussures. Je me coiffe de travers. Je boutonne mal mon veston. Je me prends les pieds dans tous les cailloux que je rencontre sur le chemin, je tombe, je pleure, je perds encore du temps et je rate mon train. Tout cela parce que ma peur m'amène à des crispations, à des précipitations qui ne sont pas les énergies pour construire l'évolution. Si tu veux évoluer, la première chose que tu dois faire, cesse d'avoir peur. La peur ne mène qu'à la catastrophe. La peur ne te mène qu'à être inefficace, à être lourdement astral, à projeter sans cesse dans ton esprit des images d'horreur, des images de perdition. Ce n'est pas ça la lumière. Ce n'est pas ça non plus l'éclat du Christ roi. Ce n'est pas ça non plus l'abondance de Dieu. Tu as tout ton temps. Tout ton temps. Et à partir du moment où tu fais les choses avec calme, tu les feras avec précision, avec amour, avec détachement. Il est important de ne plus avoir peur. Pourquoi ? Pour ne plus être égocentrique. On ne peut pas être spirituel ou essayer de le devenir en continuant à être égocentrique. C'est impossible. Et qui a peur est nécessairement égocentrique. Pourquoi ? Parce que la conscience est par la même rivée dans un centre qui va prononcer sans cesse « moi je, moi je, moi je ». Moi, je dois être en sécurité. Moi, je dois arriver là. Moi, je dois être sauvée. Moi, je dois appartenir aux élus. Moi, je, moi, je, moi, je. Et si moi, je n'éprouve pas de sécurité, automatiquement, moi, je a peur. Mais moi, je, ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme du tout. Car l'âme a toute confiance dans le destin. Parce qu'elle sait très bien que si elle crée, si elle fabrique, si elle assume son destin peut avoir des hauts et des bas, peut même contenir des malheurs, mais elle passera à travers ces malheurs avec sérénité. Parce qu'elle sait que ces malheurs ne la concernent pas, qu'ils sont simplement l'effet de quelques impondérables de la terre ou du libre arbitre des êtres humains, parfois négatifs. Mais que ce n'est pas elle qui est concernée. C'est tout simplement la liberté des autres qui s'est manifestée. Et si cette liberté a quelquefois des connotations, des notes négatives, l'âme les contemple comme si ces notes étaient positives. C'est-à-dire que l'âme s'en moque. Pour elle, il n'y a que du neutre. Le malheur qui vient n'est pas une cause de souffrance, pas plus que la joie qui vient serait une cause de bonheur. Je suis l'endroit qui est, et je ne souris plus, pas plus que je ne pleure. Cependant, je demeure dans la paix éternelle. Donc, si pour évoluer, il faut effacer la peur, il est facile de comprendre ce qu'est la peur. La peur, c'est donc le contraire de l'évolution. Qui dit contraire, dit donc encore énergie de cristallisation. Qui dit cristallisation, dit création du vieillard. Qui dit vieillard, dit mort. Automatiquement. Ce qui ne veut pas dire que dès demain, vous devez être de joyeux chevaliers sans peur et sans reproche. Et que vous devez dès demain faire face à toutes sortes de dangers. Vous devez rester prudent quant à ce que vous faites dans le monde physique. Mais vous devez être prudent de façon intelligente. Ce n'est pas la peur qui doit vous conduire à la prudence, mais l'intelligence. Et c'est complètement différent. Cela veut dire que dès demain, si vous avez quelque chose de risqué à faire, eh bien, vous devez être capable de prévoir un plan, de prévoir une issue de secours, simplement par sens de l'intelligence. Si au contraire, en vous, il y a une pulsion que vous sentez venir du ventre et qui vous dit « Oh là là, je ne vais pas aller jusque-là parce que j'ai peur, parce que ça risque de mal tourner, ça risque de ne pas être bien. » Alors vous devez savoir que la vibration est une énergie de mort, c'est une énergie de cristallisation. Et vous devez apprendre à la dépasser. De quelle manière donc ? Vous devez devenir, dès demain, des êtres prudents par intelligence et non plus par peur. De quelle manière dépasser cette peur? Vous allez dépasser cette peur tout simplement en respirant. Quand vous allez la sentir en vous, commencer à s'articuler, notamment commencer à monter du ventre, soit du plexus solaire, vous allez d'abord tout arrêter. Arrêtez ce que vous imaginez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez respirer calmement, profondément, jusque dans le bas de votre ventre. Et expirez aussi calmement, profondément. Puis vous allez respirer avec tout votre corps, comme si tout votre corps était un immense poumon que vous allez ouvrir pour respirer tout l'oxygène de l'univers. Et vous allez expirer calmement. De cette manière-là, vous allez chasser, transformer la vibration lourde astrale de la peur. Vous allez la diluer dans tout le prana que vous prenez par la respiration, et en étant diluée, elle ne se verra plus. Et maintenant que vous avez un réseau astral calmé, clarifié, vous pouvez vous positionner dans la tête et décider depuis la tête ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, considérant toutes les données. Et vous allez voir que de cette manière-là, vous allez être non seulement capable de vous dépasser, de faire des choses dont vous ne vous sentiez pas capable, mais en plus vous allez les faire avec une grande paix intérieure et avec confiance en soi. Là encore est un grand mystère. Tout disciple doit travailler sur cet autre concept que je vais évoquer, la confiance en soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on n'a pas d'abord étudié le concept de la peur, on ne peut pas comprendre ce qu'est la confiance en soi. Car si l'on s'arrête à comprendre la confiance en soi comme étant tout simplement le contraire du doute, et si pour évacuer ou éviter le doute, on fait tout simplement de la gesticulation mentale, de la gonflette mentale, et on se dit j'y arriverai, sois positif, je crois en Dieu, je crois en Kutumi, je crois en Moria, ils sont tous derrière moi, oui, 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 soyez avec moi. Si on fait comme cela de la gonflette mentale, on va tout simplement, comme je le dis si souvent, à travers la même énergie sur le même plan, mais à l'opposé. C'est-à-dire qu'on passe du doute à la confiance. Mais étant donné qu'il s'agit d'avoir traversé tout simplement le même plan, il va de soi qu'une fois que l'on aura atteint la confiance, on va retourner au doute, parce que l'on reste sur le même plan. Et lorsque le balancier est envoyé à gauche, il retourne à droite. Et de droite, il va à gauche. Et puis il retourne à droite. Donc la confiance authentique, véritable, ce n'est pas une persuasion mentale, ce n'est pas non plus le contraire du doute. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est une sorte de lumière, une sorte d'aube qui a lieu dans la vie intérieure de l'individu lorsque les troubles de la peur sont évacués. Dès que je n'ai plus peur, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, dès que je n'ai plus peur, je crée un calme en moi, un calme dans mes corps subtils, mes énergies, ma conscience. Et sur ce grand champ immense qui se trouve soudain aplani, le soleil commence à se lever. Et moi qui suis au milieu du champ, je commence à le contempler, ce soleil qui se lève. Alors je sais de quoi il est fait, je sais à quoi il ressemble, je connais sa chaleur, je la reçois, je connais sa lumière, je la vois, je connais sa dimension, je peux même la mesurer. Je le connais tout entier, ce soleil qui se lève. Et alors, puisque je le connais, ce soleil qui se lève, je n'ai plus besoin d'avoir de doute, puisque je le connais, je sais qui il est. Le doute disparaît. Le doute est donc simplement le mouvement mental et émotionnel de l'ignorance de soi. Il est donc tout à fait normal que les individus doutent. C'est tout à fait logique. Je ne me connais pas moi-même, donc je doute forcément. Mais qu'est-ce que cela veut dire, douter à ce moment-là? Douter, c'est tout simplement à ce moment-là la réaction d'un mental qui, ne connaissant pas la lumière de l'âme, se dit « oui, ça peut être comme ceci, mais ça peut être aussi comme cela ». Alors, comme je ne sais pas vraiment ce qu'est la vérité, Je n'adhère à aucune opinion. Et automatiquement, l'individu va se retrancher aussi de l'acceptation de certaines expériences qui, elles, en étant vécues pleinement et de façon neutre, amèneraient petit à petit vers la contemplation de l'âme et sont levées à l'intérieur de l'individu. Il est donc tout à fait normal que vous ayez des doutes, et je dirais même que c'est la preuve d'une certaine santé mentale. Je dirais simplement que le travail qui est à faire, ce n'est pas au niveau de la destruction de ces doutes. Sachez que c'est tout à fait normal que vous les ayez. Si vous voulez porter vos efforts de façon judicieuse et fertile, vous devez les porter sur la découverte de vous-même, la connaissance de vous-même. Donc, ayez connaissance de vos doutes, mais laissez-les à l'endroit où ils s'articulent, c'est-à-dire à l'endroit de l'ignorance. Chaque fois que vous avez un doute, ne dites pas « ce n'est pas sûr, hein. Moi, on n'arrive pas à me convaincre de cette manière-là ». Il y a un grand danger à parler de la sorte. Pourquoi ? Parce que si vous dites « on n'arrive pas à me convaincre de cette manière-là », cela veut dire quoi ? Cela veut dire que moi, l'individu, je m'identifie avec ce que l'on me dit. Si j'y crois, je l'accepte et cela devient mon identité. Si je n'y crois pas, je ne l'accepte pas et ce n'est pas mon identité. Sachez qu'il n'est pas question d'identification dans la connaissance. S'il n'est pas question d'identification, vous êtes par là même libéré du poids de devoir croire quelque chose ou de devoir l'accepter pour devenir spirituel ou pour devenir lumineux ou pour rencontrer le maître. Vous n'avez rien à croire ou à accepter. Si quelque chose ne vous paraît pas acceptable, ayez le réflexe honnête de dire que ce soit une erreur ou que ce soit une vérité, ce que tu me dis pour l'instant, je ne peux pas le contempler. Vous laissez la chose de côté et vous travaillez au dépouillement de vous-même. Vous travaillez sur les points que vous pouvez par contre largement accepter parce qu'il y a une résonance en vous qui se crée. Et petit à petit, en favorisant de cette façon-là la paix intérieure, le lever de l'âme à l'intérieur de vous, vous allez par là même pouvoir contempler toutes les choses qu'éventuellement vous n'avez pas pu croire autrefois ou qu'il aurait été dangereux de croire parce qu'elles n'étaient pas suffisamment vraies. Donc croire ou ne pas croire n'est pas un problème ni une condition pour l'évolution, sachez-le. Ce que vous ne pouvez pas vérifier par votre intuition ou par vos expériences, ne dites pas que cela existe ou n'existe pas. Rangez-le dans un dossier en attente. Et cultiver autre chose. L'homme se torture toujours parce qu'il se dit « Il faut que je me crée des credos. Je dois absolument me créer des croyances, je dois croire à quelque chose. » Tout le monde me parle du corps astral, tout le monde me parle des chakras. Si je veux être spirituel, je dois accepter que l'aura existe, je dois accepter que les chakras existent, je dois accepter que le troisième œil existe. Parce que si je ne crois pas ces choses, si je les renie, lorsque je me place dans la communauté des gens dits spirituels, eh bien je m'aperçois qu'en avouant que je renie ces éléments de connaissance, les individus me renient aussi. Et me disent, mais tu n'es pas spirituel si tu ne connais pas ces choses. C'est le minimum qu'il faut croire, voyons. Si tu n'as pas l'ABC, comment veux-tu conjuguer le nom de Dieu ? Et ainsi, ceux qui croient tout haussent les épaules, se mettent très haut au-dessus qu'ils ne croient pas parce que tout simplement ils sont peut-être soit un petit peu plus durs d'oreilles que certains, soit tout simplement parce qu'ils ne veulent croire que leur intuition et que leur expérience. Et ceux qui croient tout se mettent donc largement au-dessus et se disent « mais je suis plein de connaissances ». Et il y a des profanes sur la terre, Seigneur. Si tu savais les profanes qu'il y a, Je leur dis des millions de fois la même chose et ils ne me croient pas. Ils voudraient, comme saint Thomas, pouvoir là mettre le doigt dans le trou pour me croire. Et ainsi, celui qui est plein de connaissances se plaint aussi des profanes. Et il s'en plaint à Dieu. Et je dis, mais si tu savais sur la terre que tu as créée, le travail qu'il y a. En fait, lorsqu'il se plaint à Dieu de tous les profanes qui existent, la véritable cause, le véritable mouvement de cette plainte, ce n'est pas la compassion, mais l'orgueil. Et nous savons très bien d'où vient un mot, rien que dans la manière dont il est prononcé. Beaucoup de gens se plaignent du nombre de profanes qui existent sur Terre parce qu'en fait, ils sont très contents de leur propre connaissance et se plaignent de ne pas être reconnus pour la connaissance qu'ils ont. Alors ils se disent, je ne peux pas échanger, je ne peux pas parler. Personne ne me croit, et s'ils ne me croient pas, bien c'est parce qu'ils sont vraiment trop inférieurs, trop profanes. Ah Seigneur, si tu savais comme c'est difficile. Et l'homme qui parle de la sorte croit qu'il se plaint à juste titre vis-à-vis de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le maître administre une énergie qui sera l'équivalent d'une gifle pour ce genre d'individu. Car le maître ne peut pas admettre ce genre de réflexion. Quoi ? Tu as de la connaissance et parfois tu n'as que 2 grammes de connaissance et c'est juste pour juger tes frères que cette connaissance te soit retirée, qu'elle soit ta perte. Et automatiquement, l'énergie qui est envoyée perturbe l'individu, car c'est inadmissible. Il y en a d'autres qui disent, Seigneur, regarde le nombre de profanes qui sont sur la terre. Tout simplement parce qu'ils voudraient que dès demain le monde soit parfait. Et ils se trouvent même très bons, ils se disent, moi je suis très gentil, je suis un brave petit disciple, je pense chaque jour au bien dans le monde, je voudrais que les guerres s'arrêtent partout, nananananer. Moi Dieu, j'ai un grand cœur, je crois à tous tes anges, et je voudrais qu'il n'y ait plus jamais de famine. Je voudrais qu'il y ait de l'eau partout, plus de désert. Fini, fini le Sahel. Et puis tu sais, il faudrait que tu penses aussi à donner du travail à tout le monde. Viens enlever toutes les maladies. On serait tellement heureux tous ensemble. Et toi au milieu qui chanterais des louanges. Cette deuxième façon-là de se plaindre est très touchante, bien sûr. C'est très touchant. Lorsque l'on entend comme cela un jeune esprit qui loue, qui chante son idéal, c'est très touchant. Mais cependant, c'est complètement enfantin, irréalisable. À ce moment-là, que fait l'énergie ? L'énergie ne châtie pas à ce moment-là. L'énergie essaie d'éduquer. Et alors que l'individu croit de plus en plus à un idéal de bien, il est complètement harcelé par une pluie d'informations qui lui disent tout le mal qui existe sur Terre. Si bien que même dans sa vie professionnelle, ou dans sa vie privée, ou dans sa vie amicale, il ne rencontre que des échecs. Pour qu'il se rende compte de ce qu'est la nature humaine. Si bien que ce genre d'individu arrive au bout d'un certain nombre d'années d'existence, le cœur complètement vidé de tout idéal et de toute illusion. Et ces hommes nous disent, « Ah Seigneur, si tu savais comment j'étais quand j'étais jeune. Moi je croyais tout ce qu'on me disait. J'aimais tout le monde. J'aimais les cafards, j'aimais les gens méchants, les gens gentils, tout le monde. J'allais même ramasser les chiens perdus dans la colline. » Et puis, dès que j'avais 2 francs, j'en donnais un à mes amis, j'invitais tous mes frères, j'invitais tous les gens du voisinage chez moi. Et je partageais tout ce que j'avais. Et puis, ah Seigneur, c'est que toi, tu n'as pas prévu une vie de cette manière-là. Dès que j'ai commencé à travailler, je suis tombée sur un patron très méchant qui m'a exploitée. Mais je l'aimais quand même parce que je suis bonne. Tu connais mon cœur, Seigneur. Mais au bout d'un certain temps, j'en ai eu assez. Je suis partie, je suis allée travailler en ville. Et là, je suis tombée amoureuse. Mais je suis tombée amoureuse d'une fille qui m'a maltraitée. Mais si tu savais, Seigneur, moi qui voyais la femme de façon idéale, elle avait de si beaux yeux, si doux, toujours habillée avec des jupons en dentelle. Elle était si belle à voir, mais c'était un vrai monstre, si tu savais. Mais je l'ai épousée quand même. Je me suis dit, ah, avec le temps, peut-être, elle changera. Et nous voilà maintenant avec deux enfants qui ne me respectent pas, qui me traitent n'importe comment. Et ma femme qui sort tous les soirs pour aller voir je ne sais qui. Et moi, je suis là, Seigneur, à la table de la cuisine avec mon verre de vin rouge. Et je te parle pour te dire que j'en ai marre, pour te dire qu'il y en a assez, pour te dire que ce n'est pas comme ça que ça devrait exister. Forcément, pour le guide qui contemple ce genre de scène, le cœur devient lourd. Car l'homme qui s'exprime de cette manière-là exprime sa douleur, sa peine. Et la compassion des anges et des maîtres existe. Mais seulement il faut savoir que si la compassion existe, elle n'empêche pas le sens éducatif de ces mêmes anges, de ces mêmes guides de s'exercer. Ce qui fait que le guide qui voudrait porter secours à ce genre d'homme ne peut absolument pas porter secours. Parce que le défaut n'est pas dans la vie de la terre. Le défaut n'est pas dans la vie qui a été créée ou dans la nécessité de l'incarnation. Le défaut est dans l'interprétation, la vision de cet homme. Vision qui n'était pas suffisamment adulte. Il était beau, il était jeune, naïf, crédule, aimant tout le monde, embrassant l'univers. Et il ne savait même pas que pour marcher dans cet univers ou sur cette terre, il fallait aussi avoir une tête et réfléchir. En étant trop ouvert, sans avoir une tête concentrée, des hommes comme cela perdent tout leur idéal. Et c'est très dur ensuite de retrouver l'idéal. Même s'il y a la mort, avec un certain oubli des douleurs, et que l'on repart à zéro avec une nouvelle incarnation, la somme des pensées, la somme des idées se transporte dans l'autre incarnation. Et c'est un être sans illusion qui naît. Un être qu'il est difficile de faire sourire. Et la mère qui accouche d'un tel enfant se dit « Mais je ne comprends pas. Mon enfant ne s'amuse pas avec les autres. On dirait qu'il n'y a pas de joie à l'intérieur de lui. Et puis il est toujours grognon. On dirait qu'il lui manque quelque chose. J'ai beau l'aimer, lui donner tout ce que j'ai. On dirait qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. » Cet essentiel qui lui manque, c'est parce qu'il l'a perdu. C'est ce feu de la joie qui ne peut exister que s'il y a en même temps l'intelligence de la tête. Et là, je reviens à la question qui a été posée. Comment être joyeux aujourd'hui, mais aussi tous les jours de l'avenir, et tous les jours aussi du passé, lorsque l'on contemple ce qu'a pu être la vie d'autrefois. Comment être cette joie et qu'est-ce que la joie? Eh bien, si la souffrance, c'est une contemplation de l'esprit face à la disharmonie qui s'est installée, la joie sera donc le contraire. La joie sera donc une sorte de nectar, de paix intérieure, qui va se créer lorsque l'individu commence à se connaître lui-même. Autrement dit, ce n'est pas n'importe qui va pouvoir être joyeux, c'est certain. Bien sûr, des joies passagères pourront exister. Celui qui aime sortir sera heureux quand il sera dehors, en train de s'amuser, en train d'aller dans des bals ou au cinéma. Mais sitôt que cet instant de joie est terminé, il se souvient de ses soucis ou de son problème, ou retrouve son complexe d'infériorité, et sa tristesse revient. Donc ce n'est pas la vraie joie. Les moments de joie ne sont pas des expressions de la joie. Ce sont des moments de joie humaine, simplement. Des moments de plaisir, des moments de jouissance. Mais le plaisir, comme la jouissance, ce n'est pas la joie. C'est du plaisir, mais ce n'est pas la joie. Qu'est-ce que la joie ? La joie, c'est un état d'équilibre. On ne peut pas être dans la joie si on n'est pas dans un état d'équilibre. Un état d'équilibre parfait qui permet aux énergies de l'esprit de contempler tout ce qu'il y a à l'extérieur comme étant des expressions, des formes de vie qui ont la liberté de s'exprimer. De cette manière-là, tout ce qui vient de l'extérieur sera laissé à l'extérieur comme étant l'expression de la liberté d'autrui. C'est dehors, ce n'est pas en moi, chez moi. Pour illustrer ce que je dis, je vais prendre un exemple.